nous allons passer à notre deuxième communication, la communication de Laurent Di Filippo, donc, qui va s'installer. Voilà, donc je vais présenter Laurent en attendant donc, la préparation du PowerPoint. Donc Laurent Di Filippo est docteur en sciences de l'information et de la communication, mais également en études scandinaves. Il occupe actuellement le poste de chargé de recherche au sein du département R&D du studio de jeux vidéo Ernestine à Strasbourg, et il est membre associé du centre de recherche sur les médiations CREM, donc EA 3476. Ses recherches de thèse portent sur les phénomènes culturels et leur dynamique à travers l'étude des processus de transmission, de manifestation et d'appropriation des récits médiévaux scandinaves, qu'on appelle couramment les mythes nordiques, jusqu'à leurs usages dans les médias contemporains. Voilà, dernier petit élément, donc son livre « Penser les relations entre les médias », donc dernier livre, date de 2007. Voilà, 2017. Laurent, c'est à vous.
Merci beaucoup. Oula.
Après, j'ai plus. Bien, merci pour la présentation. Donc, je vais vous parler effectivement de comment construire un cadre de jeu historique pour un jeu de fantasy, avec comme exemple Advanced Dungeons and Dragons. Il y en a quelques autres, on pourra peut-être en parler après, très rapidement. Hein. Donjons et Dragons et les jeux de rôle, c'est quand même un carrefour de la culture populaire, et qui actuellement reprennent une place importante, en France aussi. Alors quelques exemples, là récemment, la série Stranger Things utilise beaucoup de références à Donjons et Dragons. On a une bande dessinée qui parle de la vie de Gary Gygax, un des créateurs de Donjons et Dragons, qui vient d'être traduite et publiée chez Glénat. Et Larousse qui a publié une boîte d'initiation au jeu de rôle, donc c'est quand même un gros éditeur qui se met à publier du jeu de rôle pour présenter ça à de nouveaux potentiels joueurs. Donc il y a une dynamique autour du jeu de rôle actuellement, donc je pense que c'est pour ça, entre autres, c'est aussi actuellement un objet qu'il faut investir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se développent, et très rapidement, parce que vous connaissez sûrement tous un petit peu ça. Donc, les jeux de rôle papier, jeux de rôle sur table, c'est une activité ludique. Plusieurs joueurs endossent le rôle de héros dans une aventure dont le cadre, est, dans sa forme classique, traditionnelle, est posé par un juge, arbitre, compteur, appelé maître de jeu. Donjons et Dragons, c'est, on peut dire, le grand-père des jeux de rôle, et le premier à connaître un succès commercial, en tout cas. Il est publié en 1974, et c'est aussi un parangon du genre de la fantasy. Je ne reviens pas là-dessus, hein, c'est expliqué dans d'autres travaux. Je vais m'intéresser donc aujourd'hui au cadre de campagne historique pour ADD, qui est publié dans une série appelée Historical Reference, parue au début des années 90, hein, c'est à peu près 91-94. Et l'opus qui m'intéresse, c'est le premier, qui porte sur les Vikings. Parce que, comme vous avez entendu, donc je fais des études scandinaves, je m'intéresse à la période médiévale scandinave, surtout aux mythes nordiques, et puis un peu aux Vikings aussi. Et le terme qui est utilisé, parce que donc, Olivier rappelait que justement dans l'appel à contribution du colloque, on parlait de fantaisie historique. Donc là, il y a un terme qui est présenté dans l'ouvrage comme une nouvelle expérience de jeu, ils appellent ça Historical Fantasy Adventuring, donc on pourrait traduire littéralement par aventure de fantaisie historique. On va voir ce que ça donne. Et donc je vais utiliser cet exemple, ce cas d'étude. Pour essayer de comprendre comment définir un cadre de jeu historique pour un jeu de fantasy, grosso modo la problématique, et ça permettra de développer l'idée de monde réalisé localement que j'ai emprunté à la sociologie du jeu d'Erving Goffman, et dont j'essaie de montrer que certaines réflexions aident à définir la fabrication de limites et de frontières de certaines productions médiatiques et les relations que ces productions entretiennent les unes avec les autres. Alors, on revient à la question de penser les relations entre médias. J'avais travaillé là-dessus dans un texte qui est paru l'an dernier sur les jeux vidéo plutôt et la franchise Conan. Donc je vais essayer de poursuivre ces pistes, et mon plan sera organisé pour ça en trois parties. Dans un premier temps, je vais revenir sur la question de l'adaptation des règles d'ADD à un cadre historique. Après, je parlerai de la délimitation temporelle et géographique d'une ère culturelle historique, et enfin des sources qui sont utilisées pour bâtir ce cadre, pour montrer que si elles se présentent comme historiques, on a surtout affaire à des sources littéraires. Donc adaptation et transformation, simplement pour vous présenter un peu l'histoire de l'édition de Donjons et Dragons. Ça commence, je vous l'ai dit, en 1974. Ensuite, il y a deux branches, hein, Donjons et Dragons d'un côté, Advanced Dungeons and Dragons de l'autre. Et en fait, si, je ne sais pas si vous voyez la flèche. Donc là, il y a une petite étoile jaune et rouge. C'est la deuxième édition de ADD. Et le supplément Viking, il sort pour cette édition-là, particulièrement. Donc ça veut dire que vous avez besoin de des règles d'ADD pour jouer dans le cadre Viking. Le manuel qui pose le cadre ne suffit pas pour jouer. Et donc depuis 2000, suite au rachat de TSR, hein, c'est l'entreprise qui publie ADD, on revient à une franchise unique, Donjons et Dragons, pour la troisième édition, et on est aujourd'hui à la cinquième. La série Historical Reference, dont le supplément sur les Vikings fait partie, est composée de 7 ouvrages à la couverture verte, pour le distinguer d'autres ouvrages qui étaient des options pour les joueurs, qui étaient brunes ou bleues. Donc vous les avez ici, hein. Il y a donc le supplément sur les Vikings, sur les paladins de Charlemagne, sur les Celtes, Mighty Fortress qui est plutôt plus arme à feu, puis un peu plus cap et épée, Rome antique, la Grèce antique et les croisades. Et en fait, ils étaient censés, en tout cas certains d'entre eux, fonctionner par pair, et celui sur les Vikings allait de pair avec celui de Charlemagne. En fait, c'était deux factions qui pouvaient être opposées, les chrétiens d'un côté, les païens de l'autre, et pareil pour Rome et les Celtes, hein, c'était deux factions qui pouvaient être opposées. Si on regarde le sommaire de ce supplément sur les Vikings, on va trouver différents chapitres, un résumé historique de la période viking, une présentation ensuite des personnages, donc ce qu'on peut jouer et leurs capacités de combat, un nouveau type de magie, des monstres qu'on peut affronter, des trésors, alors ça c'est aussi un très typique des jeux de fantasy, hein, tu démontres pour récolter leurs trésors, trouver des objets, c'est encore mieux s'ils sont magiques, et gagner des points d'expérience pour monter de niveau et devenir plus fort. Pour finir, quelques informations sur la culture viking, ça c'est moins de points de règles. Donc, il n'y a pas, hein, en termes de règles de jeu, il n'y a pas tellement dans cet ouvrage de règles, par exemple, pour la gestion d'une ferme, alors qu'on nous dit au départ que les Scandinaves, même si on les appelle les Vikings, c'est pas que des pillards, pirates violents, mais c'est aussi des fermiers, c'est aussi des marchands, etc. Mais finalement, les règles ne s'occupent pas trop de ça, donc on voit quand même que malgré le background, l'arrière-plan qui est fourni, on a essentiellement des règles focalisées sur l'action et le combat. Donc ça, c'est important, ça, c'est aussi savoir finalement ce que le jeu va être. Un peu de roleplay, mais quand même beaucoup d'aventures. On va pas faire des Scandinaves qui bêchent toute la journée. Hein. Si on regarde un petit peu comment sont catégorisés les types de personnages, et là je vais prendre deux exemples qui permettent de voir comment ça se situe justement par rapport aux règles génériques d'ADD. Dans ce supplément viking, vous pouvez jouer parmi les races des humains, essentiellement. On nous dit d'ailleurs qu'il faut qu'il y ait c'est mieux s'il y a une majorité d'humains autour de la table, et il n'y aura pas de nains, d'elfes, de demi-elfes, de gnomes ou de halflings, qui sont l'équivalent des hobbits, qui sont donc exclus de ce setting. On ne peut pas les jouer. Par contre, on nous rajoute une race qui s'appelle les Trollborn. Donc en fait, c'est des personnages humains, mais qui ont du sang de troll de par leur généalogie. Et ça fait référence aux sagas scandinaves où certains héros avaient du sang de troll, donc c'était plus grand, plus massif, plus fort que d'autres humains. Du côté des classes de personnages, là aussi on a une adaptation, donc on peut jouer des guerriers, des rôdeurs, des voleurs ou des bardes, alors qui sont appelés des skalds hein, dans le monde scandinave. Par contre, les prêtres, les magiciens, les paladins sont considérés comme venant de l'étranger, donc ça peut être des finnois pour les magiciens, qui en fait pour les scandinaves étaient un peu considérés comme des sorciers. Où les paladins et les prêtres, ça va être des chrétiens, donc ils vont venir du sud. Et vous avez un ajout de deux classes, hein, c'est comme pour les races, on ajoute des choses, les berserkers, qui sont les guerriers qui s'enragent, et des runecasters, des lanceurs de runes. Donc cette nouvelle magie typique, ça je vais y revenir après. Donc ça me permet, sur le plan théorique, il y a une petite phrase dans le manuel qui nous dit que ces ajouts et ces rejets sont nécessaires pour créer l'ambiance appropriée du monde décrit dans les sagas nordiques. Alors je vous le traduis, le supplément n'est pas traduit en français, hein, ça je le dis pour les gens qui s'intéressent à la réception, il est uniquement en anglais. Donc ça me permet ça de renvoyer à l'idée de membrane ludique qu'Erwin Goffman avait utilisée pour définir en fait le cadre d'un jeu, et elle est composée, en fait c'est une membrane métaphorique, hein. Quelles sont les limites qu'on pose pendant une situation de jeu? J'essaye de l'appliquer là au support médiatique, et elle est composée de plusieurs règles. les règles de non-pertinence qui excluent des éléments qui ne participent pas à la définition d'une situation. Donc là, on l'a vu, c'est le cas avec les nains, les elfes, les prêtres, etc. Les règles de transformation, c'est le processus par lequel des éléments extérieurs à la situation sont modifiés pour intégrer de nouvelles situations. Donc les humains des vikings ou les guerriers sont adaptés au cas de vikings. Ils ont un destin particulier et les troupes que peuvent recruter les guerriers sont aussi adaptées au cadre. Et les ressources réalisées qui définissent ce qui est réalisé, donc réel au sens de Goffman, à l'intérieur du cadre de la situation ludique. Donc ça, c'est ce qui permet en fait de penser la continuité et le changement, donc les relations entre différents médias, et qui montre aussi qu'il y a une part d'oubli à partir du moment où on passe d'une situation sociale à une autre. Hein, toutes ces, notamment les règles de non-pertinence, on laisse des choses de côté. Donc j'ai juste fait un petit schéma pour montrer ça. Donc tout ne passe pas, hein, si vous voulez, des règles génériques d'ADD au cadre viking, et ce qui passe est transformé. Ça, c'est le début. Ensuite, pour le cadre temporel et géographique, donc comment est délimité l'ère culturelle historique de la période médiévale scandinave dans le livre ? L'ouvrage propose une chronologie. Donc, vous voyez, vous avez la page là sur le côté de la période viking. Elle nous dit qu'elle commence un peu avant l'an 800. Alors, je vous lis la citation. Bien que les hommes du Nord vivaient dans les contrées rocailleuses et froides de Scandinavie depuis des millénaires, ce n'est qu'au début des années 800 qu'ils se sont fait connaître du reste du monde. Alors, c'est faux, en réalité, mais néanmoins, c'est intéressant. C'est faux parce qu'on sait aujourd'hui que les Scandinaves avaient des contacts avec certaines parties de l'Europe depuis très longtemps. Plusieurs ouvrages et articles en parlent hein, aujourd'hui. C'est une idée sur laquelle on est revenu. Et déjà, la date de sortie du manuel, il y a des livres qui le disent, hein, notamment un ouvrage d'Else Rosdahl qui s'appelle « The Vikings », qui est très bien, un livre en anglais qui est bien documenté, ou récemment en français, si ça vous intéresse, un ouvrage de Jean-Marie Maillefer, donc un petit bouquin qui s'appelle « Les Vikings » aussi, très accessible. Mais ce qui est intéressant, c'est que le manuel il va en fait véhiculer une idée des Vikings qui soudain surgissent des brumes septentrionales pour déferler sur les côtes européennes et les piller. Donc ça va ajouter à l'élément de surprise évident de leurs attaques sur les côtes, et il semble sorti de nulle part pour le reste des Européens, et donc ça renforce la figure d'altérité qui sert à construire. Et ça correspond en fait à une vision ancienne, romantique, qui date du 19e siècle, hein, où l'opposition entre le Nord et le Sud était très, très forte, même construite par les dans la littérature française, voilà, il y a plein d'exemples. Mais donc c'est ce stéréotype-là qu'on retrouve. Rapidement, sur la fin, hein, c'est aussi là, c'est une date bien précise, la bataille de Hastings en 1066, et là on dit, c'est pareil en fait, ça s'arrête pas pile poil à cette date-là, il y a encore des raids, et il y a encore des attaques pendant plusieurs dizaines d'années. Alors revenons sur cette idée, la période viking. Donc, sur ce terme, comment est-ce qu'il était utilisé par les Norrois ? En fait, ça désigne pas du tout une période temporelle, hein. On le trouve sous deux formes. Sous sa forme féminine, il désigne l'expédition maritime qui est destinée au pillage, et l'expression fara et viking signifie alors partir en expédition. Et on trouve le mot sous la forme masculine, vikinger, qui désigne ceux qui partent en expédition. Donc à cette époque, le mot n'a pas du tout le sens de période temporelle ni de sens ethnique, comme on peut l'utiliser aujourd'hui. Hein, donc là, je vais en bas, je suis assez d'accord avec Alban Gauthier qui a récemment proposé de parler de viking sans majuscule, justement comme on parlerait de pirate, parce qu'en fait c'est les gens qui partent en expédition. Ça n'a pas un sens ethnique. Et en fait, on commence à parler de période viking au 19e siècle, en 1840, au Danemark, et c'est dans le domaine de l'archéologie pour classer des objets, tous ces objets qui viendraient de cette même période, qui auraient été des objets vikings. Ensuite, l'expression elle devient plus fréquente à la fin du 19e siècle, à partir de 1870. Donc, alors, attention hein, quand même, je dis, il ne faut pas ici bêtement dire qu'un livre de 1991 ne prend pas en compte les avancées de la recherche récente, hein, bien entendu, ce serait idiot. Donc pas relire le manuel a posteriori. En revanche, ça peut amener à chercher les références utilisées et proposées par l'auteur pour constater qu'elles datent un peu, même au moment où il écrit l'ouvrage. Hein, donc ça va du milieu, j'en reparlerai, mais ça va du milieu des années 1960 à 1985 pour des ouvrages génériques, qui sont plutôt des ouvrages généralistes que des travaux de recherche à jour. Et donc, là aussi, on revient à une discussion qu'on avait hier, hein, le passage de la recherche au livre d'histoire à destination d'un public élargi, puis au manuel de jeu. Ça va montrer, premièrement, qu'il y a une temporalité de la transmission à prendre en compte, et les manuels de jeu héritent de conceptions parfois dépassées, et donc aussi de stéréotypes anciens. Et deuxièmement, que dans l'évolution de la que oui, dans l'évolution de la connaissance dans un domaine particulier, les manuels de jeu peuvent permettre de mettre le doigt sur certaines problématiques de recherche, comme les évolutions des représentations de l'histoire au cours du temps, ainsi que la formation et l'utilisation de ces stéréotypes. Donc ça renvoie aux réflexions de Jacques Le Goff, donc j'aime bien cette citation, dans « Faut-il découper l'histoire en tranches ?» Il nous dit « La périodisation, œuvre de l'homme, est donc à la fois artificielle et provisoire, elle évolue avec l'histoire elle-même, à cet égard, elle a une double utilité, elle permet de mieux maîtriser le temps passé, mais elle souligne aussi la fragilité de cet instrument du savoir humain, qu'est l'histoire. » Donc on voit en fait le manuel de jeu comme servant à poser une problématique historique. En termes géographiques, on a une carte qui est fournie avec le manuel là, sur les Vikings. Comme vous voyez, elle est donc limitée à l'Europe avec un petit bout de l'Amérique du Nord. On pense que les Scandinaves se sont rendus en Amérique du Nord aux alentours de l'an 1000. Hein, on n'a pas les dates exactes. Donc, on comprend bien que ce manuel ne propose pas de jouer dans le monde entier. On voit d'ailleurs qu'un bout de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Asie. Et les contours, si vous regardez bien cette carte, les contours de la Scandinavie sont bien dessinés. Le reste de la carte est plus approximatif. Et ça, les auteurs, ils l'expliquent. Ils voulaient représenter le fait que les Scandinaves connaissaient bien leurs terres, mais ils connaissaient moins bien en détail les terres les plus éloignées de chez eux. Donc ils ont voulu essayer de rendre un peu les représentations qu'auraient pu avoir les Scandinaves des terres qu'ils parcouraient. Et en fait, il y a beaucoup de cartes anciennes où effectivement on retrouve ce genre d'idée. Donc là aussi, on est dans un monde réalisé localement. Le cadre fictionnel qui est posé par le supplément, c'est il est centré sur l'Europe entre la fin du 8e siècle et le 9e siècle, limité géographiquement et historiquement, et donc partie d'un monde plus large. C'est fréquent, alors ça c'est très fréquent dans les cadres de campagne d'ADD. En général, on a toujours un bout de monde et ensuite des suppléments qui vont éventuellement rajouter de nouveaux endroits à explorer. Donc ça renvoie au concept de diégèse qui a été formulé par Étienne Souriau. Donc, il s'agit au cinéma de l'espace imaginé de la fiction à partir de l'action qui a lieu à l'écran. Olivier en parlait, donc je vous cite Souriau, l'espace diégétique, cet espace seulement reconstitué par la pensée du spectateur et supposé ou construit originellement par l'auteur du scénario. Hein, donc c'est comment on s'imagine qu'il y a un espace plus grand que ce qu'on voit dans le cadre. Donc Olivier l'avait repris dans un article sur les mondes dans les jeux de rôle, hein, qu'on avait publié avec Audrey. Il avançait l'idée que les joueurs n'ont en réalité pas besoin d'un monde complet pour jouer, mais d'espace limité à partir duquel les joueurs projettent éventuellement la représentation d'un univers plus grand. Donc, c'est une expérience localisée d'un monde plus large. Alors, on va un peu plus loin que le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, puis je reviendrai sur les sources. Donc on a des rapports à l'histoire, des rapports à la géographie, et donc on voit déjà qu'en fait le rapport entre le jeu et le manuel se complexifie. Pour en venir à ces sources, j'ai encore un peu 5 minutes, c'est bon. Donc, de quoi sont faits ces mondes? J'aime bien cette citation là de Nelson Goodman. Il nous dit « Les différentes substances dont les mondes sont faits, matière, énergie, onde, phénomène, sont faites en même temps que les mondes, c'est une perspective constructiviste, mais faites à partir de quoi? En définitive, pas à partir de rien, mais à partir d'autres mondes. Pour construire le monde comme nous savons faire, on démarre toujours avec des mondes déjà à disposition, faire c'est refaire. » Et ça fonctionne très bien aussi pour les fictions ludiques. Les sources, j'en parlais tout à l'heure, que nous donne l'auteur, elles sont en fait de deux sortes. Il y a des manuels et des ouvrages historiques sur les Vikings, et des œuvres littéraires, et notamment les sagas islandaises. Il faut noter quand même que la plupart des sagas islandaises sont rédigées entre le XIIe et le XIVe siècle, donc elles ne constituent pas des sources contemporaines de l'époque viking. Donc c'est aussi déjà pour les Scandinaves, et notamment les Islandais, des reconstructions de leur histoire, et ils étaient en fait à cette époque-là dans des grosses problématiques identitaires, parce que la Norvège essayait de mettre la main sur l'Islande, et ils se reconstruisent un passé, ça leur donnait une légitimité. Pour revenir au manuel, dans un ouvrage de célébration des 30 ans de Donjons et Dragons, il y a un chapitre qui est consacré à cette série Historical Reference, qui raconte qu'en fait, le premier auteur du volume, David Zeb Cook, c'était un amateur de culture médiévale scandinave, et l'auteur raconte qu'en fait, il se promenait régulièrement avec sa version pinguin usée des sagas islandaises dans sa poche. On voyait tout le temps se balader avec ça, donc c'était vraiment un amateur. En termes de sociologie des mondes de l'art, c'est intéressant, hein, la figure de l'amateur-auteur. Ces sources et cette question de la valeur historique des sagas dont je parlais tout à l'heure, c'est une question qui est toujours d'actualité en études scandinaves, hein, à savoir qu'elle va avoir raison. Est-ce que ce qu'elle raconte des faits qui se sont produits plusieurs centaines d'années avant leur mise par écrit, en plus parfois dans d'autres pays, qu'est-ce que ça vaut exactement et comment on peut le réutiliser? Et souvent dans le manuel, en fait, il y a des informations qui sont données qui viennent des sagas, mais qui sont présentées comme des faits historiques. Hein, donc là aussi, encore une fois, on part du manuel pour pointer en fait une problématique de recherche qui est très présente dans le champ. Donc il y a aussi une porosité entre sources historiques et littéraires, et c'est dû au fait qu'à l'époque, ça c'est important, il n'y avait pas de distinction à l'époque médiévale aussi stricte entre sources historiques et littéraires, et le terme, en fait, quand on étudie les catégories indigènes, le terme saga en vieux norrois, ça désigne toutes sortes de récits, qu'ils soient historiques ou qu'ils soient fantastiques, fictionnels. Alors, je vous montre, on a des informations archéologiques aussi dans le manuel, donc là vous voyez la forteresse de Trelleborg, et c'est bon, mis à part l'échelle, parce que vous voyez les petits carrés là, c'est l'échelle est fausse, mais sinon c'est très proche, ça c'est le site archéologique actuel, la représentation est très fidèle. Et pour prendre deux exemples très rapidement, les berserkers ou les runes, c'est en fait la réception de figures littéraires. Les berserkers, c'est en fait plus une figure littéraire qu'une réalité. Les runes, c'est la réception d'un poème qui s'appelle les Dits du Très-Haut, donc les Havamal, en norrois. C'est un poème édique, et en fait, il y a une partie qui parle d'Odin qui ramasse les runes, et une partie qui est ensuite une liste de sorts. Et les recherches contemporaines, elles disent qu'en fait, ces parties circulaient indépendamment les unes des autres, et que c'est un poète au XIIIe siècle qui les a toutes rassemblées. En fait, toutes... La réception contemporaine qui nous dit que les runes servent à lancer des sorts, une grosse partie en tout cas, vient de ce poème-là. Donc si ça se trouve, c'était pas tout à fait. De toute façon, aujourd'hui, on pense plutôt que les runes, c'était avant tout un alphabet qui soit ensuite utilisé pour faire des sorts. C'est pas fou de le penser. Et donc, on voit que ça complète encore un petit peu notre schéma. Donc, si on veut penser le rapport entre l'histoire et truc, donc vous voyez qu'en fait, et je mets tout le temps ces membranes poreuses parce qu'il y a toujours des transformations et toujours des choses qui ne passent pas. Et c'est ça que j'essaye de garder en tête, toujours dans une optique un peu particulariste qui est la mienne, c'est de penser les supports pour leur particularité et pour les relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Après, il n'est pas assez dynamique ce schéma, parce que pour les sources historiques, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'histoire évolue. Bon, c'est juste, voilà, juste pour faire des traits. Alors, en conclusion, pour comprendre comment un cadre de jeu historique utilisé pour un jeu de fantasy est construit, j'ai proposé ces trois points, je vous les redonne. Hein, donc, transformation, exclusion ou ajout par rapport au jeu originel, des frontières d'un cadre fictionnel qui contribuent à en faire une réalisation localisée, hein, qui renvoie au concept de diégèse, et des sources qui servent à définir un cadre historique qui peuvent aussi être littéraires. Il y aurait d'autres dimensions qui ne sont pas traitées ici, hein. Donc moi mon idée, c'est comment j'essaye de travailler, je prends un cas d'étude et j'essaye de voir les différentes dimensions. Donc là on pourrait rajouter une dimension sociologique, hein, qui sont les gens qui jouent, est-ce que eux ils connaissent, en fait, si on revient à ces rapports, est-ce que eux ils sont capables de les reconstruire ou pas. C'est-à-dire, si une fois qu'on a le manuel, qu'on l'a un peu étudié, on essaye de chercher, est-ce qu'ils ont lu les sagas, est-ce qu'ils les ont pas lus, est-ce que le maître de jeu éventuellement en a lu et comment il leur transmet, ça c'est intéressant aussi. Donc on a une figure de médiateur, il va leur dire bah voilà, ça fait référence à ça. Donc c'est des choses qu'on peut creuser. Donc ça peut être poursuivi ce travail par donc une sociologie des pratiques, mais aussi faire des comparaisons avec d'autres cadres historiques de la série, hein, on l'a vu, mais on pourrait aussi voir avec d'autres jeux, parce que c'est pas le seul jeu, et c'est pas le premier non plus à DD à avoir proposé un cadre viking par rapport à un jeu générique, hein. Il y avait eu, alors, pour ceux qui connaissent, hein, Rollmaster, GURPS et RuneQuest pour les premiers, quoi, puis après il y en a eu d'autres. Voilà. Donc c'est voilà, des pistes un peu pour continuer. Je vous remercie pour votre attention.
Merci.
Bien, merci Laurent pour cette présentation synthétique et précise. Est-ce que nous avons des questions pour Laurent Di Filippo? Oui.
Merci Laurent pour cette intervention.
Il n'y a pas de micro. Attendez, est-ce qu'on peut peut-être avoir un micro? Merci.
Un, deux. Merci Laurent pour cette présentation. Il y a plusieurs questions. Peut-être justement, j'allais te poser la question sur les autres suppléments, en fait, parce que pour leur date des autres jeux, leur date d'édition, parce que je ne m'en souviens plus très bien. Je crois qu'on peut aussi ajouter Lord of Giants, The Dragon, enfin voilà, je pense que c'est tous ces suppléments. effectivement, ils ont été publiés assez, dans un laps de temps assez court, en fait, hein, donc c'est une forme d'imitation entre les jeux. Il y a un autre truc, c'est sur les trollborn, forcément. Est-ce que ça ressemble au New York, en fait, hein? Parce que j'ai l'impression, tu vois, encore une fois, ça renvoie à ce que moi, quand tu as dit ça, ça m'a renvoyé tout de suite à ce que j'ai dit hier, justement, les trolls, enfin, les orques qui disent, voilà, on ressemble à des vikings, quoi. Donc, et surtout que les vikings, en fin de compte, dans l'histoire, tu vois, dans ce supplément, on dit des vikings, okay. Ils apparaissent dans l'histoire après, quoi. Donc, tu vois, on est un peu dans une forme d'imitation par rapport à ça. Voilà, enfin, j'ai plein d'autres questions, après, je te laisse répondre déjà à ça.
Alors pour les autres jeux, ça commence, je ne sais plus si ça doit être RuneQuest le premier, 84 ou 85, Rollmaster 89 et GURPS, c'est en même temps que ADD 91. Donc là, moi j'en ai passé un en revue et puis je vais prendre les autres et je vais comparer pour voir comment c'est présente les choses, hein, de différents manières. Sachant que, alors je crois que donc, le premier, en plus, dit qu'ils prennent énormément de liberté avec l'histoire et qu'ils s'en foutent de toute façon, on est là pour jouer. C'est très clair, c'est dit au début. De toute façon, il y a des gens. Enfin, vous allez rencontrer des personnages qui n'ont pas du tout vécu à la même époque, et c'est pas grave, c'est comme ça. Alors que pour ADD, ils essayent d'être plus précis sur la chronologie et sur les événements. Donc il y a quand même des différences entre les jeux et les périodes où c'est fait. Ensuite, oui, c'est vrai que pour les Trundles, qui sont des. C'est pas forcément des demi au sens qu'un des deux parents l'était, mais dans la lignée. Il y avait un personnage. Ensuite, c'est des formes d'altérité, hein, c'est des formes monstrueuses, et ils sont plus grands, plus forts, plus moches. C'est dit, hein, dans les Trollborn, ils sont physiquement plus repoussants que des humains. Donc effectivement, on pourrait les faire correspondre à des orques, mais ça reste, on reste dans le monstre comme figure d'altérité qui contamine aussi l'humain, dans le sens où le sang du monstre peut transformer l'humain. Donc il y a
ça. Okay. Oui.
Merci beaucoup. Moi j'ai une question d'historien. Est-ce qu'il y a des supports qui privilégient les sources exogènes de type Adangmaral, etc.?
J'entends pas bien ce que.
Est-ce qu'il y a des supports, des jeux en particulier, en ayant les mêmes supports, qui privilégient les sources exogènes par rapport aux sources indigènes? Peut-être parce qu'elles sont plus faciles d'accès pour les concepteurs du jeu.
De toute façon, les concepteurs, ils passent par des manuels de vulgarisation. Ils ne vont pas lire les sagas en vieux norrois, pas les manuscrits. Donc de toute façon, il y a toute cette histoire de la réception tout au long du temps. Alors ils lisent des traductions et ils lisent des manuels qui sont des reconstructions de chercheurs. Donc c'est pas des sources indigènes en quelque sorte. C'est déjà une. Et puis de toute façon sur la période viking, on a très peu. Alors s'il y a un exemple très clair, les vikings n'avaient pas de support écrit, hein, à part quelques pierres ou quelques gravures. Donc ça nous donne pas d'informations sur ce qu'ils faisaient. C'est les chrétiens qui se faisaient taper dessus, qui écrivaient que oh là là, c'est horrible, c'est la Dieu nous punit, on n'est pas assez croyants, donc il nous envoie les enragés du Nord pour nous taper dessus. Et c'est les chroniques anglo-saxonnes qui informent des premiers raids. Donc c'est de toute façon des sources exogènes qui sont mises par écrit à ce moment-là. Le sac de Lindisfarne, hein, qu'on est en 793, et puis il y a eu quelques autres sacs avant, c'est écrit par des chrétiens anglais.
Mais c'est ça que je me demandais, c'est est-ce que les gens qui consultent ces sources pour produire leur univers, est-ce qu'ils n'ont pas tendance à privilégier les sources exogènes? Parce que pour les Celtes, c'est le cas par exemple.
Forcément, parce que les sources de cette période vont être essentiellement exogènes en termes. Enfin, pour les sources écrites.
Voilà.
Après, quand ils ont des informations archéologiques, là, on peut retrouver des choses. C'est le gros problème de l'étude de la période médiévale scandinave avant que les chrétiens amènent l'écriture. C'est qu'en fait, on a quasiment rien. Quoi. Voilà. Ça répond.
Je me donne la parole à moi-même.
Pour savoir, c'est un peu ce que tu as annoncé à la fin sur la sociologie des pratiques, mais est-ce que les joueurs qui jouent à ces suppléments, ils ont l'impression d'avoir une expérience différente? Est-ce que ça change quelque chose de jouer à Donjons et Dragons dans un cadre plus ou moins historique? Ou est-ce que justement, comme tu le disais pour un autre supplément, eh ben, ils s'en foutent? Parce qu'a priori, je ne sais pas si tu as lu la thèse d'Antoine Dauphine sur l'histoire et jeux de rôle, ou encore enquêtes qui ont été faites sur le GN, etc., où en fait la recherche, la demande d'historicité apparaissait de manière très faible dans les motivations des joueurs.
Alors pour la thèse d'Antoine Offray, je lui ai envoyé un mail pour l'avoir, mais il m'a jamais répondu. Donc et comme elle n'est pas en ligne, voilà, j'ai pas encore accès, j'espère. Si quelqu'un l'a, hein, je suis preneur.
J'étais dans le jury, mais...
D'accord. Donc voilà, malheureusement, j'ai pas lu ça. Par contre, alors de ce que je sais, ça, c'est... Enfin, en tout cas, des études... Déjà, ce que j'avais fait sur Age of Conan, mais qui est du coup pas un jeu historique. Moi, je cherchais des références sur les mythes nordiques dans le jeu, et en fait, quand on joue avec les gens, on se rend compte qu'ils les utilisent sans arrêt et qu'ils s'en fichent un peu de leur provenance. À la limite, ils s'intéressent un peu à... Et encore, hein, c'est ponctuel, au texte de Ward sur Conan. Bon, ça arrive de temps en temps dans des discussions intermédiaires. Après, je poserai quand même une question à Olivier, parce qu'il maîtrise un jeu justement sur la... Alors, pas la période Viking, mais la période Vendel, qui est juste avant. Dans le GN... Là, récemment, j'ai des amis qui ont fait un GN viking en Alsace, et eux, ils avaient quand même plein de textes sur les costumes, comment les construire, les différentes armes, à quoi ça ressemblait, etc. etc. Donc, il y a quand même, ils se renseignent pour avoir un minimum de réalisme historique, pour que ça ait l'air crédible. Hein, c'est ça. Ensuite, de toute façon, il y avait aussi des éléments surnaturels, donc à un moment on sort de l'historique pur, si c'est pas le bon terme. En jeu de rôle, de ce que j'ai vu autour d'une table, c'est dans les jeux de fantasy façon JRTM ou One Ring, c'est les jeux basés sur Tolkien, on va poser des questions sur l'œuvre de Tolkien, éventuellement discuter avec le MJ de ce que Tolkien disait sur tel ou tel élément avant la partie ou après la partie suivant ce qui s'est passé, même des fois pendant. Et donc en fait ça va quand même dépendre du type de jeu auquel on joue. Si on joue à un jeu historique, on va plus s'intéresser à des éléments historiques. Si on joue à un jeu de fantasy, on va s'intéresser à l'œuvre de l'auteur, etc., etc. Et après, ça dépend aussi des intérêts de chacun. J'avais vu sur Age of Conan qu'il y avait des gens qui me disaient « Ah, mais moi, je m'intéresse beaucoup aux barbares. » Alors, on avait un peu discuté de ça. Et puis, donc, c'est plus ponctuel et ça se passe moins peut-être pendant le jeu. Cet intérêt-là, c'est plus quelque chose de personnel. En tout cas, c'était comme ça sur le jardin. Voilà, je sais pas. Et donc, Olivier, ouais, toi qui maîtrises Yggdrasil, dis-nous comment ça se passe autour de ta table.
Alors, l'une des particularités Yggdrasil, hein, c'est un jeu de création française sur lequel donc, l'éditeur 7e Cercle fait un travail d'érudition collective. Ils arrivent toujours avec des brouettes de livres les uns et les autres, à la fois donc, sur l'histoire, sur le folklore, et puis sur quelque chose qu'ils ont souvent beaucoup de mal à travailler, qui est la question de la reconstitution à hauteur d'homme. C'est-à-dire comment on conserve les aliments, comment on guérit d'une blessure, enfin, des questions qui ne sont pas toujours documentées ni par les historiens ni par les narrateurs mythiques. Et ce qui intéresse particulièrement les joueurs quand on joue avec Yggdrasil, sachant qu'ils ont tous 20 ans de jeu de rôle dans les pattes, donc ce n'est pas du tout leur première expérience, c'est la tonalité particulière de cette culture. Donc on travaille, être sous la direction d'un sociologue, ça change peut-être un petit peu les choses dans une partie, mais on travaille beaucoup sur ce qui se passe dans les villages. Il y a beaucoup de moments où on joue le quotidien, les ambiances d'auberge, etc. Et comme par ailleurs ils sont assez pleutres, ils sont pas encore allés vraiment taper du géant, quoi. Je pense que ce qui les intéresse particulièrement, c'est le fait d'être dans un univers moyennement accessible sur ses clés fantastiques, si tu veux. C'est-à-dire, quand tu rencontres un vampire, tu sais que tu vas y aller avec ton crucifix, ça peut marcher ou non, suivant les règles. Mais en tout cas, le vampire est socialisé, normalisé, enfin, un peu ce que je disais avec les hommes-poissons tout à l'heure. Tandis que les ombres qui passent entre les arbres, les choses qu'on voit glisser sur les rochers, etc., ça a tendance à les terrifier. Ce qui fait qu'ils restent beaucoup à l'auberge. Mais, et voilà, il n'y a pas le côté
tiens, t'as cette telle créature, elle est dans le bouquin, elle est niveau 3, je suis niveau 5, je vais la poutrer, ce sera... Voilà. Donc il y a un retour vers une inquiétude fantastique que je trouve particulièrement jouissive. Et puis il y a un travail de mise en récit, parce qu'il y a notamment un scald dans le groupe, qui fait que sans arrêt, il y a les deux niveaux. C'est-à-dire ce qu'on a vécu et ce qu'on en raconte autour de nous. Ce qui est un des aspects les plus sympas, je trouve, du jeu de rôle sur table, parce que c'est absolument impossible à numériser. Enfin, dans le jeu vidéo, c'est souvent présenté de façon assez caricaturale.